Écoute. Écoute.
Bonjour, pour cette première émission de l'année, mon invité est Yannick Jadot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est terminé fin 2018, la COP24 à Katowice. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Est-ce que le climat est réellement en danger plus que jamais ?
Le climat est en danger plus que jamais, puisque tous les scientifiques nous disent à quel point dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique nous conduirait à une forme d'emballement et de chaos climatique, que ce qui est toujours étonnant en matière de climat, c'est qu'on voit à quel point le futur nous a rattrapés. Moi, je me souviens de la conférence de Copenhague, qui a été la première grande mobilisation internationale sur le climat. À ce moment-là, tous les chefs d'État, Obama, Sarkozy, Gordon Brown, Angela Merkel, tout le monde allait sauver le climat.
En 2009.
En 2009, à Copenhague. Mais le discours, c'était le climat, c'est une alerte scientifique. Et ça concerne les générations futures. En 10 ans, tout a basculé. Le futur nous a rattrapés au sens où tous les effets dramatiques du dérèglement climatique sont déjà constatés, impactent déjà très dramatiquement nos sociétés, nos économies, nos organisations, évidemment parmi nos sociétés les plus vulnérables et au sein de la communauté internationale, les pays les plus vulnérables. Donc le dérèglement climatique est là, c'est une affaire du présent. Et c'est évidemment une affaire du futur. Et ce qui est étonnant de constater à Katowice, c'est que finalement, les États qui représentent, qui construisent la communauté internationale aujourd'hui, sont très globalement infoutus de se sortir du vieux monde. Je faisais la comparaison avec Copenhague. Quand on était à Copenhague, les énergies renouvelables, par exemple, étaient plus chères que toutes les énergies conventionnelles. Charbon, pétrole, gaz, nucléaire. En 10 ans, le photovoltaïque a réduit ses coûts par 10, l'éolien par 3. Les programmes d'efficacité énergétique, notamment dans les logements, aujourd'hui, on sait les mener, ils sont performants. Donc au moment où une partie des entreprises ont intégré cette économie climatique, au moment où les citoyens n'ont jamais autant marché, n'ont jamais été autant préoccupés par le dérèglement climatique, au moment où les collectivités locales sont devenues des acteurs majeurs de la lutte contre le dérèglement climatique, comme un outil d'ailleurs de réappropriation démocratique locale, les États sont en retard sur les sociétés parce que les États, malheureusement, restent prisonniers de ce point de vue-là du vieux monde, des vieilles énergies, parce que le pétrole...
Comment l'expliquer ? Alors, comment expliquer que la société ne soit pas un aiguillon suffisant pour faire avancer les États ?
Parce que depuis que l'économie est économie, la question de l'énergie est une question étatique majeure. On a le charbon. Le charbon, ça a été historiquement l'énergie sociale. C'est l'énergie sur laquelle se sont construits la plupart des mouvements syndicaux en Europe et sur lesquels ils sont tombés d'ailleurs, comme en Grande-Bretagne. Il y a le pétrole, qui est l'énergie de la mondialisation. C'est l'énergie des dictatures, c'est l'énergie de la corruption. Et puis le nucléaire, qui est une énergie totalement étatique, et qui aujourd'hui, mais c'est pas le débat, pour moi, est le dernier avatar du soviétisme. Et puis, il y a les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ce sont pas des énergies étatiques. Ce sont les grandes énergies citoyennes de demain. C'est les énergies qu'on peut s'approprier. On peut produire, on peut consommer sa propre énergie, on peut l'organiser à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un village, et ce sont essentiellement, aujourd'hui, des petites entreprises, ce sont des services. Et là, c'est une rupture dans la conception de l'État. Toutes les politiques énergétiques qui étaient co-gérées par les États avec des oligopoles, Engie, EDF, Elf, tout Total, tout ce qui a, y compris contribué à la construction des États, ou en tout cas ont été totalement dépendants des États dans leur stratégie, tout ça est totalement bousculé. Et puis un deuxième phénomène qui est en train d'advenir, c'est le nouveau climato-scepticisme d'un Trump, d'un Bolsonaro, de tous ceux qui, au fond, ont compris
que le monde d'aujourd'hui était un monde rétréci, était un monde où, de fait, on était dans une communauté de destin, et donc, s'il y a bien un sujet qui fait communauté de destin, c'est le climat, mais ces populistes-là, ces nationaux populistes, au fond, refusant ce monde, refusent ce qui fait communauté de destin. Ils se replient du monde, et donc ils se replient de tout ce qui est bien commun. Et le climato-scepticisme d'un Trump, c'est pas simplement le fait que... C'est pas de la science. Il s'en fout de la science, Trump. C'est pas simplement le fait qu'il est financé par le charbon et le pétrole. C'est que acter le dérèglement climatique et la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, c'est de fait faire communauté de destin, c'est faire communauté internationale, et c'est la dernière chose qu'il veut. Donc on a ces États qui sont très en retard par rapport aux sociétés. Ce qui rend optimiste, c'est que la société avance. C'est que l'économie rationnelle aujourd'hui est une économie qui, de fait, prend sérieusement en compte le climat. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est la réticence des États, c'est leur emprisonnement dans le vieux monde et le fait qu'ils soient prisonniers d'un certain nombre de lobbies qui, de fait, pour lesquels, en tout cas, chaque minute de gagné dans la lutte contre le dérèglement climatique est une minute de profit en plus.
Alors, la famille écologique est née sur la protection de l'environnement, mais depuis, ce combat a été au moins en affichage, partagé par toutes les familles politiques. Plus aucune famille politique n'ignore la question, même si les réponses, bien sûr, sont très différentes. Est-ce que, à l'inverse, le mouvement écologique, les Verts, se sont emparés des questions stratégiques et en dehors des questions de la lutte contre la dégradation climatique? Quelle est la vision du monde et des questions stratégiques qu'a votre famille politique et que vous avez vous-même?
Alors, premièrement, tout le monde parle de l'écologie, mais tout le monde parle de l'écologie comme tout le monde parle du social. Et il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui la font. Et je revendique, notamment dans le contexte européen, comme dans le contexte national, qu'on est aussi dans un moment de clarification. Il y a 10 ans, tout le monde s'est emparé de l'écologie, c'était Al Gore, c'était le pacte écologique de Nicolas Hulot, c'était Nicolas Stern en Grande-Bretagne. D'un seul coup, le sujet de l'écologie est devenu sujet politique, et donc ça n'était plus simplement le territoire des écologistes ou des Verts, mais 10 ans après, force est de constater que il y a que les Verts qui se cognent les lobbies et qui arrachent des victoires. Je crois qu'aujourd'hui, l'écologie pose un nouvel équilibre entre le global et le local. Longtemps, l'écologie, ça a été penser global, agir local. Aujourd'hui, finalement, on est dans une situation où la mondialisation libérale, telle qu'elle s'exerce, explose les limites de la planète, maltraite les femmes et les hommes en construisant une compétition de tous contre tous, mais pas simplement des salariés contre les autres salariés, des territoires contre les territoires, des choix de société contre les choix de société. Les nouveaux accords de libre-échange, c'est une harmonisation par le bas, un nivellement par le bas des choix de société. Ça n'est plus une question de droit de douane. Donc on a cette mondialisation libérale qui est en train, au fond, qui est totalement dogmatique et irréaliste du point de vue des limites de la planète, comme, évidemment, à partir du moment où on explose les limites de la planète, qu'on rend la Terre de moins en moins habitable, la question du partage ne peut plus être posée pour tous. Il y a un moment, il y a une partie de la société, une partie de l'élite qui fait sécession. Et finalement, la force des écologistes aujourd'hui, c'est pas de, par rapport à ça, de construire un repli. Au contraire, de construire une nouvelle souveraineté internationale, une nouvelle mondialisation, mais qui est celle des biens communs. Climat, biodiversité, solidarité. Et c'est à travers ce prisme-là que nous pensons la question géopolitique. Quand on se bat pour le climat, quand on se bat pour les économies d'énergie et les énergies renouvelables, c'est sortir de toutes les confusions géopolitiques qui ont parasiter notre géopolitique depuis des décennies, c'est se donner les moyens de penser et d'avoir une relation à la Russie de Poutine qui est totalement différente. C'est s'extirper de la confusion malsaine des intérêts au niveau du Golfe, comme en Afrique. aller sur une logique de lutte contre le dérèglement climatique, comme d'arrêter de piller les ressources. Aujourd'hui, 70% de l'argent de la corruption et des paradis fiscaux vient de la prédation sur les ressources naturelles. Quand on se bat, y compris au Parlement européen, sur la question de la traçabilité de ce qu'on appelle les minerais de sang, ces minerais qui rentrent dans la composition de nos téléphones portables, par exemple, et qui sont notamment exploités dans le bassin du Congo, c'est redonner, au fond, la possibilité à des communautés locales d'exister en dehors de l'oppression, de la tyrannie et du saccage de leur environnement. Et donc, on a cette volonté de repenser la question globale à partir des sujets essentiels. Parce qu'aujourd'hui, cette mondialisation libérale, finalement, c'est la circulation sans entrave des biens, des marchandises, des services, des investissements. Mais du fait de cette mise en compétition de tous contre tous, finalement, cette mondialisation produit de la perte de repères, de la perte de ce qu'on appelle aujourd'hui des identités, d'une précarité sociale, culturelle, donc construit plutôt de la défiance, du rejet, de la haine. Et finalement, la contrepartie de cette mondialisation libérale, aujourd'hui, ce sont des murs, des barbelés et des camps pour les personnes. Ça peut pas être ça, évidemment, notre vision. Et pour ça, il nous faut l'Europe. Il nous faut l'Europe parce qu'aujourd'hui, l'Europe est pour nous l'échelon qui permet à la fois de repenser la géopolitique face à Trump, face à Poutine, face à Bolsonaro, face à Xi Jinping ou je ne sais pas qui d'autre. On a besoin d'un espace politique en capacité de peser.
Mais ça, c'est le projet d'Europe puissance, c'est votre famille politique.
Non, c'est l'Europe puissance médiatrice.
Voilà, parce que votre famille politique médiatrice a une difficulté avec la notion de puissance que vous rejetez. Mais est-ce que pour peser par rapport à Trump, Poutine, Xi Jinping, est-ce qu'il ne faut pas que l'Europe ait elle-même les moyens de la puissance?
Bien
Comment
sûr.
Vous articulez cette existence par rapport aux puissances extérieures?
Alors, les écologistes à l'échelle européenne sont totalement favorables à une politique étrangère européenne. Et pour qu'on ait une politique étrangère européenne, il nous faut une politique de défense. Il nous faut une politique de défense qui soit pas une politique de défense à vocation hégémonique. Je pense que c'est plus le sujet de l'Europe. L'Europe a été suffisamment hégémonique pour tirer toutes les leçons de son hégémonisme et justement s'inscrire à la fois dans une forme d'universalisme des valeurs, des règles, du droit, mais qui n'est pas un universalisme qu'on construit, qu'on impose et dont on bénéficie majoritairement, qui est un universalisme justement de principes, de valeurs et avec la capacité d'une puissance de médiation. Donc nous sommes pour une politique de défense. Nous sommes pour la coordination, la coopération de tous les outils de défense nationaux à l'échelle de l'Europe, y compris pour lui donner les moyens d'intervention. Pour ma part, moi je soutenais, quand il y a eu les premiers bombardements chimiques, moi je soutenais l'intervention d'une communauté internationale sur l'aviation syrienne. Je pense qu'on serait, on va pas refaire l'histoire, ça n'existe pas.
Donc en fait,
pas.
Les écologiques ne sont pas ou ne sont plus des pacifistes?
Mais bien sûr que si. Bien
non,
sûr que
au
si.
Sens où vous acceptez l'usage de la force à certaines conditions.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Donc c'est ça que je voulais vous faire
non,
dire.
Non, mais
c'est
tout à fait.
Quelle est la différence entre le pacifisme qui est le refus total de l'usage de la force ou l'usage sous certaines conditions? À quel moment l'usage de la force, y compris militaire, vous paraît justifié?
C'est toujours difficile, je l'ai dit. Moi, je pense qu'il fallait bombarder l'aviation syrienne et que, à la fois, la Russie n'aurait peut-être pas, se serait peut-être pas senti les mains libres en Ukraine à ce moment-là, parce qu'elle a vu à quel point l'Occident aujourd'hui, puisque c'était finalement une affaire britannique, américaine et française, finalement, à un moment, ça se résumait à ça, n'était plus en capacité de se mettre d'accord, y compris pour arrêter les pires atrocités.
Ça, c'est le reproche qui est fait à Obama.
À Obama et aux Britanniques dans la suite. Et finalement, Hollande ne s'est pas senti en capacité de le faire. C'était objectif, ça devenait objectivement difficile. Et on n'aurait peut-être pas eu autant d'atrocités en Syrie. Il fallait protéger Benghazi. En revanche, au-delà de la protection de Benghazi, vouloir renverser le régime libyen sans avoir aucune perspective de ce qu'on voulait faire ou de ce qu'il fallait faire en Libye, s'est révélé une catastrophe.
C'est la différence entre la responsabilité de protéger et le changement de régime. On a été plus loin que le mandat qui avait été donné.
On a été plus loin que le mandat, mais surtout au-delà de la question du mandat, qui est essentielle pour nous en matière d'intervention au mandat des Nations Unies. On doit aussi constater que le Conseil de sécurité des Nations Unies, aujourd'hui, est totalement verrouillé. Donc, au-delà même du mandat, c'est la question de la projection. L'appareil militaire n'est qu'un outil. Il ne peut absolument pas être une fin en soi. Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui dans nos interventions extérieures. Elles peuvent être, à court terme, dans l'actualité, dans le présent, elles peuvent être justifiées. Je pense à l'intervention au Mali, on peut penser à la Centrafrique, on peut penser à certains régimes où, à un moment donné, toute France-Afrique bue. On se dit, mais qui est encore capable d'intervenir pour éviter des génocides, ou en tout cas des massacres?
Vous condamnez la politique de Poutine en Syrie, en Ukraine. Est-ce que pour faire face à Poutine, l'OTAN vous paraît toujours nécessaire, indispensable, ou est-ce que c'est un remède qui nourrit le mal?
Je crois que finalement, aujourd'hui, l'OTAN n'est plus sujet. Déjà avec Obama, finalement c'était moins violent parce que, au fond, les centres d'intérêt américains avaient déjà largement dérivé vers le Pacifique, et que je pense que le parapluie américain, de fait, sur l'Europe, s'était déjà en partie refermé. Il s'est totalement refermé avec Trump. Mon sujet, c'est la politique européenne de défense.
Mais est-ce que l'OTAN ne vous paraît pas être un facteur qui vient empêcher cette autonomie européenne?
Oui et non. Je pense que elle renvoie, y compris un certain nombre aujourd'hui de régimes d'Europe de l'Est orientale, dans une sorte de choix un peu entre les États-Unis et une défense européenne. On voit bien toute la confusion qu'il y a en Turquie autour de la question de l'OTAN. On voit bien comment la Russie, parfois, a pu s'en sentir agressée quand des États voisins, ce qu'ils considéraient des États tampons, allaient basculer dans l'OTAN. Mais je pense que l'intervention russe en Ukraine est d'abord une intervention contre la démocratie. Finalement, Poutine a vu avant l'Europe, ou en tout cas a réagi avant l'Europe, à cette aspiration démocratique. Il a vu tout le danger de cette aspiration démocratique. Donc, aujourd'hui, à la fois, il faut, je l'ai dit, une politique de défense européenne. Il faut aussi trouver les moyens dans nos sanctions de répondre aussi à cette guerre de basse intensité que nous avons en Europe et à la frontière de l'Union européenne. Et moi, je comprends toujours pas pourquoi, par exemple, l'Europe n'a pas développé de manière systématique une sorte de liste Magnitsky européenne, où finalement les complices, les instigateurs de ces crimes, que ce soit en Syrie ou sur d'autres scènes, seraient durement sanctionnés, puisque finalement, les oligarques russes continuent à investir sur la Côte d'Azur, continuent à envoyer leurs enfants et à mettre une partie de la corruption ou des bénéfices de la corruption dans les banques européennes. Donc je pense qu'on a la capacité d'être beaucoup plus dur vis-à-vis de l'oligarchie poutinienne qui dirige, et de l'aide beaucoup moins vis-à-vis du peuple russe.
Passons à la Chine. Il y a toujours des débats sur le fait de savoir comment se comporter la guerre de la Chine. Est-ce que l'on met en avant une politique des droits de l'homme et que l'on refuse au maximum les contacts avec la Chine? Ou est-ce qu'on fait prévaloir le réalisme? Où situez-vous le curseur des relations que la France et l'Europe devraient avoir avec la Chine?
Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Europe n'a pas de relation avec la Chine. Et c'est ça, à mon avis, le principal problème auquel on est confronté. À chaque problème commercial, de dumping, de piraterie sur les technologies, des choses comme ça. La Chine a une relation directe avec les capitales européennes. Moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup travaillé sur la question du dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques. C'est le plus grand cas de dumping chinois en Europe. La Chine vendait ses panneaux à moitié du coût de revient pour tuer l'industrie européenne, parce que c'est une industrie du futur sur laquelle elle veut être hégémonique comme elle l'a fait sur les terres rares. On s'est battu pour que l'Europe fasse le boulot et protège ses industries, cette industrie du futur et ses emplois. Et à un moment donné, les dirigeants chinois ont fait le tour des capitales. Ils sont allés voir les Grecs en disant « Vous êtes sûr que vous voulez nous cogner alors qu'on investit dans le port du Pirée ?» Ils sont allés voir tous les pays d'Europe de l'Est et orientale en faisant des menaces sur les investissements. Ils sont allés voir les Français en les menaçant sur le vin. Et ils sont allés finalement aller voir Madame Merkel pour dire « Tous nos panneaux photovoltaïques sont faits avec des machines-outils allemandes, vous choisissez. » Et finalement, on a laissé la Chine tuer. Et donc, en fait, on a chose assez totalement paradoxale, mais qui est liée à la construction européenne. Nous avons une politique commerciale commune en Europe, mais nous n'avons pas de diplomatie commerciale. Et qu'aujourd'hui, on voit la Chine, comme d'ailleurs la Russie, tenter de saper l'unité européenne, notamment avec les nouvelles routes de la soie, où finalement vous avez une Chine qui investit, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les investissements liés au fonds de cohésion européen. Donc en fait, c'est la solidarité européenne, notamment, qui permet le développement de l'Europe de l'Est orientale. Mais vous voyez cette Europe-là, qui est en train de basculer dans une confusion et un laxisme vis-à-vis de la politique chinoise, parce que justement il y a des investissements à la clé. Donc il faut à la fois, ça renvoie à l'Europe qui est de savoir défendre ses producteurs et pas simplement ses consommateurs, ça renvoie à l'Europe de sortir des logiques de discipline budgétaire et d'investir massivement sur cette économie du 21e siècle qui est forcément une économie climatique, et ça renvoie aussi à l'Europe de savoir quelles sont les vraies zones de partenariat avec la Chine et les vraies zones de conflit. Partenariat, c'est nous sommes deux continents aujourd'hui avec très peu de ressources naturelles. L'Europe, parce qu'elle a tout bouffé avec deux siècles d'industrialisation. La Chine, parce que son processus... Bon, donc, on a à jouer de cette question de la sobriété en ressources et qui est une question, évidemment, à un moment donné, environnementale. Mais on doit aussi peser aujourd'hui commercialement et à travers notre outil commercial sur la Chine du point de vue politique. Mais tant qu'on ne sera pas une Europe unie face à la Chine, ça n'existe pas.
Pour conclure, Yannick Jadot, est-ce que vous pensez que la France a toujours un message spécifique à faire valoir dans le monde et si oui, lequel ?
La France a toujours un message spécifique à faire valoir dans le monde si on sait regarder l'histoire. On a produit le meilleur, on a produit le pire. Si on est capable d'acter notre histoire, notre plus grande leçon aujourd'hui, en tout cas notre plus grand combat, c'est la question de l'universalisme. Sur la question des droits, mais aujourd'hui, les nouvelles formes d'universalisme, c'est le combat pour les biens communs, c'est le climat, c'est les ressources naturelles, ce sont les pollutions, ce sont les océans, c'est tout ce qui fait communauté de destin. On est dans un monde où chacune et chacun est condamné à vivre avec les autres, est exposé les uns aux autres. Alors, il y a deux options. Soit on se forge des ennemis, et finalement, les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, qui ont été les principaux vecteurs de mondialisation aujourd'hui, s'en retirent. C'est quand même une incroyable ironie de l'histoire. Soit on bâtit des solidarités. Et s'il y a une place pour un pays et ses habitants et ses intellectuels et ses artistes, parce qu'on s'est toujours pensé universel, parce qu'on s'est toujours pensé plus grand que ce que nous sommes, et c'est une qualité quand ça donne le meilleur pour chacune et chacun d'entre nous, et ben c'est ça. Pour moi, c'est l'universalité autour de la communauté de destin. Et ça, il n'y a pas d'échappatoire, ça passe par l'Europe. Et donc, c'est aussi en permanence un rééquilibrage profond entre notre capacité à vouloir le faire toujours, mais notre capacité à entraîner les autres. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai été très inquiet des débuts de ce quinquennat. Parce que finalement, Macron, qui devait être le renouveau européen, et c'était plutôt une bonne nouvelle, ses premiers pas en géopolitique n'ont pas été des pas européens. C'est Trump contre Merkel, au départ. C'est recevoir Poutine alors qu'il est boycotté par le G7 en Sicile. Donc ça a été d'abord, au fond, des pas qui servaient une image de la grandeur de la France, mais qui n'étaient pas, selon moi, des initiatives qui étaient efficaces du point de vue géopolitique, parce qu'à ce moment-là, il devait être un leader européen et non pas un leader français construisant des images pour rassurer notre angoisse de disparaître, mais ça devait être des images qui nous replaçaient justement au cœur du débat international.
Merci Yannick Jadot pour ce tour d'horizon sur les questions stratégiques et géopolitiques, cette vision que vous allez défendre bien sûr lors des élections européennes.
Absolument.